Vous écoutez Bac FM, il est 18h30. C'est un nouveau numéro de Parlez-moi de vous que je vous propose avec comme invité Olivier Broda. Il est directeur artistique, il est comédien. On va revenir ensemble sur son parcours, sur scène et devant les caméras, de son enfance dans le nord de la France à son arrivée à Paris. Il m'a donné rendez-vous à Nevers autour d'un verre. On a rendez-vous tout de suite avec Olivier Broda. Bonjour Olivier Broda.
Bonjour.
Merci d'accepter mon invitation.
Bah, merci à toi.
Dans ce rendez-vous qui s'appelle Parlez-moi de vous, je vous en avais parlé la dernière fois, on s'est rencontrés à la radio pour parler d'un projet en prison, je me rappelle.
Oui, c'est ça, avec Adrien Dess.
C'était vachement bien ce projet d'ailleurs.
Ouais. Et super le résultat cool. Aussi, c'est chouette.
Ouais, carrément. On en a reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Bac FM.
On va reconduire le truc d'ailleurs, on reconduit l'opération cette année.
Une saison 2 donc.
Une saison 2.
Bah, je vous invite à venir en parler, bien sûr, en reparler, ouais. Bien sûr, avec les nouveautés, les changements. Et ce qui reste. Vous êtes comédien, vous êtes directeur artistique, vous êtes metteur en scène. Mmh. Ça, ce sont vos principales casquettes. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, quand même.
Si je commence par... je suis ingénieur.
De base, oui, c'est vrai, j'ai vu ça.
Ouais, c'est une erreur.
On va découvrir ça ensemble, justement. Mmh. On va revenir sur votre carrière, vos différents projets, vos collaborations.
Ouais.
Aussi, il y en a une qui est à quelques pas d'ici, c'est la maison.
Ouais.
Anciennement, la maison de la culture.
Oui.
Maintenant, la maison, il y a le plan théâtral, cinématographique aussi, mais pas que. On va voyager dans le temps pour voir comment Olivier Broda est devenu Olivier Broda, finalement.
Tout un programme.
Ouais, notamment sur votre enfance. Est-ce que ça vous fait peur de parler de vous? Est-ce que vous êtes pudique?
Je pense que si on m'avait demandé de parler de moi il y a 15 ans, j'aurais mis des filtres. Là, je le suis plus. Je suis pudique. C'est-à-dire que je me suis toujours questionné s'il y avait un super projet théâtral ou cinématographique ou si on me demandait de me mettre à poil, je pense que je peinerais.
Ah ouais.
Symboliquement, non, j'ai absolument pas. J'étais tellement taciturne.
Vous êtes pudique physiquement, mais pas forcément pour parler de vous.
C'est le paradoxe. Hein.
Ouais.
Ouais, ça y est, j'ai du mal avec mon image, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Enfin, réussir à parler de vous au bout de 10 ans, c'est le fait de vieillir qui fait qu'on a envie de parler de soi finalement, de son œuvre entre guillemets.
Ouais, c'est-à-dire que je pense que je suis utilisé beaucoup dans le théâtre. En fait, je me suis jamais rendu compte à quel point le choix des textes, ce qu'on fait, les rencontres, les gens qu'on décide de rencontrer, de travailler avec, nous racontent énormément en fait.
Ouais.
Et j'ai vu que... À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher et que parfois, on est plus transparent à travers ce qu'on fait professionnellement dans nos métiers que quand on va parler de soi profondément, en fait.
Le théâtre, c'est se dévoiler.
Ah, pour moi, oui, c'est le paradoxe, d'ailleurs. On va parler du personnage, c'est l'étymologie du personnage, ça veut dire persona, masque. Mais pour moi, en fait, c'est tout sauf être masqué. Je déteste les comédiennes et les comédiens quand je ne sais pas ce qu'ils sont. J'aime pas les acteurs qui impressionnent, j'aime bien les acteurs qui émeuvent. Donc les masques, moi j'aime pas les gens qui jouent, j'aime pas voir les gens jouer. C'est paradoxe.
Mais c'est intéressant, ne pas aimer son image alors qu'on est comédien, ne pas aimer voir les gens jouer alors qu'on est acteur de théâtre, on est comédien de théâtre, c'est assez étonnant. Ouais,
c'est-à-dire que moi, j'ai longtemps... j'ai fait autre chose quand j'étais plus jeune, donc voilà, j'ai choisi ça par conviction, par amour, et qu'il y a quelque chose... C'est l'art de mentir, le théâtre, mais j'aime pas quand les personnes me mentent, les personnes physiquement, quand je... Enfin, je vais pas citer des noms, mais il y a des grands acteurs que je supporte pas, quoi, parce qu'on voit les coutures, on les voit jouer, ça m'insupporte.
Ouais.
Je demande pas à être impressionné, je le répète, je demande à être ému. Et en fait, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, voilà, même avec les zones d'ombre, hein. Surtout avec les zones d'ombre, d'ailleurs.
C'est comme ça que vous avez choisi toutes les collaborations qu'on va évoquer. D'ailleurs, on va pas revenir en détail tout de suite, mais... Quand vous choisissez une collaboration, je pense à Jean-Luc Revol, par exemple, vous allez voir l'humain avant d'aller voir la proposition, par exemple?
Alors là, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, comme j'étais déjà sur le territoire, Jean-Luc, quand il a proposé son projet, il est venu me chercher en disant, voilà, étant une compagnie sur le territoire, voilà, est-ce que je voulais l'accompagner dans son projet? Mais après, j'avais travaillé en tant que comédien avec Jean-Luc.
Ouais.
Oui, après, j'aime bien quand ça se passe bien. On est tous pareils dans nos métiers. Hein. Après, il y a des moments où... je pense que c'est seulement maintenant, en fait, depuis 5-6 ans, où je choisis. Je m'emmerde plus, en fait.
Ouais.
J'arrive à un âge où je m'emmerde plus.
Ouais.
J'ai plus envie, je m'en vais.
Vous êtes un rebelle tardif.
Ouais, j'ai jamais été un rebelle tardif. J'ai toujours été décalé, en fait. Non, mais c'est vrai, hein. J'ai toujours.
Est-ce qu'il faut être décalé un petit peu pour faire ce métier, d'ailleurs? Est-ce qu'il faut être un petit peu déconnecté de ce qui peut se passer?
Moi, je pense que ça peut être une qualité, mais le chemin est plus long.
Ouais.
Après, je pense qu'il ne faut surtout pas le préméditer, il ne faut pas le fabriquer. Moi, j'ai toujours l'impression d'être d'une autre époque, d'être décalé dans mes envies de projet. Je regarde ce monde, parfois, je suis perplexe. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté, je me suis endormi, là, je me réveille, je suis en suquet, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça, je compose avec. Je ne suis pas du tout un nostalgique d'une période que je n'ai pas vécue, mais je sens que depuis tout petit, je suis décalé. On me pointait du doigt par plein de choses, d'ailleurs, professionnellement. Les choix, ma vie sexuelle, tout, pour être vraiment honnête, il y a un truc où je me dis tout le temps, ah, tiens, je ne me reconnais pas dans les pubs, je ne me reconnais pas dans ce qu'on passe à la télé, moi le club Dorothée ne m'en parlait pas, hein,
c'était une hérésie.
Une hérésie pour moi, c'est le début de la débandade.
Mais on va revenir justement sur cet Olivier Broda petit juste avant, c'est vrai que j'ai l'habitude avec cette émission de faire choisir le lieu de rencontre à mon invité.
Ouais, ouais.
Quand je vous ai contacté là il y a pas longtemps, m'avait dit on va se rejoindre dans un bar de Nevers. On va le citer. Il est à côté.
Ouais.
Il est à côté de la porte de Paris. C'est le métro. Pourquoi ce lieu-là?
En fait, il y a quelque chose qui est. J'aime bien les gens qui le tiennent, que je trouve sympathique. Il y a suffisamment d'espace pour pouvoir être. Moi j'aime bien, c'est la solitude, la choisir.
C'est ce que vous m'avez dit en arrivant.
Ouais. Donc ça permet que si j'ai envie de, je peux me mettre en terrasse si je sais qu'à un moment donné on va mal paguer, on va discuter avec moi. J'aime bien, mais il y a des moments en fait pour le travail, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans les cafés, et j'aime bien donc du coup paradoxalement voir la vie s'agiter autour de moi, mais qu'on me laisse aussi parfois dans ma bulle en fait.
Vous qui aimez bien être des fois un petit peu à côté du monde, c'est un monde à part entière pour moi le bistrot, c'est assez étonnant.
Ouais, je suis d'accord, mais c'est ce que j'aime, mais il y a plein de gens qui le comprennent pas, c'est-à-dire je suis très observateur, on y apprend beaucoup. Je sais pas, dans la façon, dans les silences des gens, les regards, la façon d'être, les corps qui s'expriment.
Alors ça peut faire peur là, comme ça, la radio n'est pas filmée, mais quand vous regardez,
oui, je regarde les gens, justement, ça peut faire peur. Parce qu'ils vont à travers l'aquarium, ils vont se dire c'est quoi le psychopathe là. Non, j'aime ça en fait, vraiment, et puis j'aime les personnalités, des fois je m'invente, je dis mais qu'est-ce qu'ils se disent, ils ont l'air de s'aimer, ils ont l'air de s'engueuler, je m'invente des histoires, je crois que c'est ce que... Finalement, c'est pour ça que je fais ce métier.
Quand je suis arrivé, alors moi aussi je suis observateur, et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé, c'est que là, à l'heure où on se parle, la terrasse est pleine, et vous étiez en terrasse, mais tout seul.
Ben voilà.
Complètement à droite, tout seul. Mais et en fait, dans ma tête, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit un petit peu comme un comédien qui est devant son public, en fait.
Ouais, c'est peut-être dans l'autre sens, c'est vrai, d'habitude c'est plutôt de se dire qu'à un moment donné... Mais moi je suis plutôt que spectateur là, dans ce sens-là, en fait, pas du tout acteur. Et c'est vrai, bon, après accessoirement c'est aussi que je suis en train de lire, parce que je suis en train de bosser sur des programmes en ce moment, et du coup je sais que voilà, c'est un exercice de solitaire pour moi la lecture, pour le passer après en exercice plus collectif.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bonne analyse, hein, mais c'est pas...
Ouais, non, mais...
Faudra me dire combien je vous dois.
Et ça vous permet aussi de regarder autour de vous les habitudes de chacun, ça nourrit certains de vos personnages aussi, de vos manières de jouer.
Alors, inconsciemment, en fait, parce que je suis pas... c'est vraiment... J'observe pas pour extraire le suc, pour l'utiliser à des fins professionnelles, c'est vraiment la curiosité de l'être humain que je suis, en fait, vraiment. Puis parfois, il s'avère que je fais « Ah oui, tiens, en fait, c'est vrai que ça me fait penser à telle personne, tel moment que j'ai vécu. » Mais je ne suis pas un pilleur dans le sens... Je ne suis pas un pilleur. Je suis un observateur. C'est différent pour moi.
Uniquement observateur.
Ouais.
On va faire un bond dans le temps pour commencer cet entretien. On va aller en 1976. Alors ça a été long parce que d'habitude j'aime me renseigner sur tout, et pourtant j'étais obligé de vous demander votre date de naissance parce que je ne l'avais pas trouvée sur internet. Il n'y a rien de votre vie privée, perso en fait?
Non, je suis pas sur j'ai très peu les réseaux sociaux, peu de choses comme ça. Tout ce que j'ai à dire, tout ce qu'ont les gens à savoir de moi, c'est à travers mon travail. Donc ça, on peut y avoir accès facilement sur internet. Mais après le reste, j'aime bien. C'est toujours cette histoire de retrait, de souvent même ça me vaut des discussions quand on va se mettre à parler de choses, des trois sujets qui peuvent fâcher en fait dans la vie quand tout se passe bien, c'est-à-dire la politique, la religion et la sexualité par exemple.
C'est une manière de vous préserver aussi.
Oui, je trouve qu'en fait des fois on demande trop l'avis à... Enfin, pourquoi on demanderait plus l'avis à je sais pas qui, à moi, que à un kidam dans la rue? Enfin, vraiment, hein, je le pense sincèrement et je trouve que des fois, puis il y a plein de réponses que je n'ai pas à des questions et que j'ai pas à avoir. Et vraiment. Mais dire aujourd'hui qu'on sait pas, c'est compliqué pour dans l'esprit des gens.
C'est un jugement.
Même, ouais, presque. C'est ça. Ouais. Donc oui, je suis assez discret sur certains sujets. Après, je peux être très 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 expressif sur d'autres. Hein.
Comment il était Olivier enfant?
Discret. Timide, déjà mélancolique. Aujourd'hui, quand je me regarde enfant, c'est que je vois quelque chose de mélancolique.
Ouais.
Décalé. Oui, décalé parce que...
Déjà, à ce moment-là.
Ah, ouais. Ah oui, moi je viens d'un milieu ouvrier, dans le Nord.
Vous avez grandi où ?
J'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Bully-les-Mines, tout un programme. Hein, on imagine, donc les mines avec grands-parents polonais et belges qui sont venus pour la mine.
Les vraies villes ouvrières d'époque.
Vrai. Ouais, avec les terrils et tout
milieu
ça.
Milieu très populaire.
Très populaire, père ouvrier, mère au foyer, quatre enfants, et moi je suis le dernier, et du coup j'ai suivi la voie des autres, ceux qui ont ouvert. Alors mon grand frère dirait, s'il était ici, que lui il a souffert parce qu'il a dû ouvrir les portes, et moi, en fait, comme elles étaient ouvertes, j'ai dû suivre le chemin tracé.
Ouais.
Donc science, mais toujours décalé. Moi j'aimais les livres... En quatrième, troisième, j'ai rencontré un professeur de français qui, pour moi, est la vraie rencontre.
Changer votre vie un petit peu, on peut le dire. Professionnellement, du moins. Ouais.
Professionnellement, et même m'a montré une voie, sauvé quelque part de...
D'une voie que vous deviez prendre et qui vous amenait vers l'artistique.
Ouais,
qui...
très sincèrement. Ouais, ouais. Et puis l'amour des mots, parce que finalement je parlais peu. Moi, vous me mettiez dans un endroit, je me sentais merde, mince, je suis où, comment on va faire, je paniquais vite en fait, comme un peu décalé, comme je leur dis toujours. Et puis après, ce coup, il y a eu les mots, puis les mots, ça permettait de mettre des choses concrètes sur s'exprimer, puis d'un seul coup dire que c'est pas que des coquilles vides, ça a du sens. Et ça, moi j'ai commencé, j'adorais prendre un dictionnaire à partir de la quatrième, et puis l'étymologie. Je faisais du grec en club, du latin jusqu'en terminale, parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est Internet, c'est la toile, donc on cherche un mot, puis ça nous fait des rebondir. Ouais. Moi, c'était le dictionnaire.
À cette époque-là, quand vous êtes tout jeune, les activités artistiques, elles commencent à arriver, ou c'est seulement quand vous rencontrez ce prof-là?
Eh bien, c'est... En fait, j'étais déjà des trucs un peu bizarres. Quand je dis décalé, je faisais de la peinture, mais je faisais des trucs un peu... Mon frère était un très... Il est peint très, très, très bien. Même. Il ne fait pas du tout ça dans la vie. Il est ingénieur. Mais bon, moi... moi, j'ai fait ça, mais je me suis arrêté. Je ne suis pas allé jusque à y travailler, mais il y a toujours une fibre artistique. J'aimais bien griffonner, j'aimais bien... mais je n'osais pas passer le cap. Et puis, mon frère, lui, on lui disait que c'était bien. Moi, on ne me disait jamais trop... C'était bien, donc j'ai mis ça de côté. Et puis un jour, en fait, j'ai eu ce prof qui, après, mon prof de français, et puis un prof d'art plastique en quatrième. Ouais. Et là, on a commencé à écrire des scénarios, à peindre les décors, à jouer, à mettre en scène. Et en fait, c'est en recollant les morceaux quand une fois on m'a posé la question, mais d'où ça vient? Ça vient de là. L'envie, l'amour de passer mes mercredis, mes samedis, mes jours de vacances à raconter des histoires avec toutes ces énergies-là, construire des choses.
Commencer à mettre en scène un petit peu déjà aussi.
En fait, c'est un ami à moi qui m'a dit, tu te rendais pas compte, mais déjà, tu nous intimais des ordres.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon, voilà.
Cette vocation commençait à arriver sans que vous le sachiez.
Ouais, j'aimais bien ça, en fait. Mais sans, pas du tout pour s'accaparer les choses, mais pour... moi, j'ai toujours le truc d'un truc collectif. J'ai fait beaucoup de hand aussi pendant des années et des années. J'aimais bien le sport collectif. Enfin, j'ai toujours détesté, par exemple. Ouais. Je me suis mis un peu au tennis, tout ça. Ça marche pas.
Vous aviez besoin de cette communication avec les autres, de cette entraide aussi.
Ouais, puis parce que si tu passes bien la balle, on te la passe bien. Enfin, c'est pas tirer la couverture à soi, en fait. C'est vraiment un truc qui se fait à plusieurs. Ouais. Et puis, et ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, vraiment.
À 6 ans, 7 ans, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, vous répondiez quoi?
Vétérinaire.
Ah ouais?
Ouais, je collectionnais les feuilles, les fiches dans les magazines. Et jusqu'au jour, ça va être immonde ce que je vais vous dire. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, il y a quelqu'un qui demandait, mon chien a des problèmes, il n'arrête pas de se gratter, vous voyez. Et puis que j'ai vu qu'il fallait à un moment donné rentrer la main dans un endroit particulier. Ouais. J'ai fait, je ne veux pas faire ça. Ça m'a rendu toute la poésie.
Ouais, là, ça, ce sera pas possible.
Non, non. Après, du coup, ça a été médecin. Et puis en fait, après, je me suis dit, mais... Non, c'était des études longues et puis...
Ingénieur, c'était pas ce qu'il y avait de plus court non plus quand même.
Non, mais en fait j'ai fait une école qui me permettait de faire des trucs à côté. Ouais. J'ai découvert le théâtre en université en fait.
Ouais, vous aviez un mi-temps entre guillemets.
Ouais, puis au bout d'un moment le mi-temps est devenu plus. Les études sont devenues presque satellites et le cœur de l'école était devenu pour moi justement. Parce qu'on nous laissait vraiment carte blanche, donc beaucoup de théâtre, de club théâtre. Ils ont même créé à un moment donné une fibre avec... Ils ont voulu créer j'ai travaillé avec la Comédie Française au sein de mon école d'ingénieur avec Philippe Torreton.
D'accord.
Voilà, pour
d'accord.
travailler en ingénierie, un petit peu des arts, voilà, travailler autour d'un cahier l'élaboration d'un cahier des charges pour un théâtre ambulant.
C'est ce que vous essayez de faire à ce moment-là, de garder le côté ingénieur, mais peut-être de l'allier au côté artistique pour se dire « Ah, je vais pas partir de là, mais je vais essayer quand même de contourner le dossier. »
Je vais même aller plus loin, c'est presque... j'ai voulu partir avant, et puis c'est le directeur, le président de l'université qui m'a dit mais en fait ça serait bien de mettre à profit quand même voilà il y a quelque chose, il venait voir jouer etc. Et donc il y a eu à un moment donné cette envie de créer un lien entre le théâtre et puis moi je faisais des génies mécaniques donc voilà, cahier des charges pour un théâtre ambulant. J'ai eu la grande chance de visiter l'envers du décor de la Comédie Française, mais en fait la grande chance elle m'a surtout frustré parce que je me disais mais c'est ce que je veux faire, je veux pas être ingénieur.
À ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là où pour vous c'est radical et on arrête tout ça et on se consacre vraiment à...
Oui, même si je me souviendrai toute ma vie, quand je suis rentré, il y avait Michel Robin que j'adorais qui était en train de se faire maquiller et puis il y avait aussi Roland Bertin.
Ouais.
D'ailleurs, deux personnes qui sont décédées il y a peu, donc en l'occurrence Roland Bertin. Et je me souviendrai toute ma vie quand j'ai été présenté par le directeur de la Comédie Française, donc les versions sont inversées, les statuts, hein, c'est administrateur et directeur. Et là, c'était Bruno Rilavolé qui me présente en disant que je travaillais en tant qu'ingénieur mais que je voulais devenir comédien et ils m'ont dit les deux « Ne fais surtout pas ça !» Je me suis dit « Oh mince !» Et en fait, ça n'a fait que finalement conforter mon envie de le faire. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de vos études et l'année 2000? Alors pourquoi l'année 2000? On va y revenir juste après. Mais j'ai rien trouvé sur cette période-là.
Non, parce que c'est une grosse charnière dans ma vie. Ça a été, je prends ma vie en main. Je me réveille un 22 février. Je vais changer d'orientation. Je vais faire du théâtre. Et je prends mon sac à dos.
Vous êtes dans le Nord à ce moment-là encore?
Alors j'étais encore, je venais de finir l'école et j'étais justement l'été, je travaillais avec mon père en usine pour faire un peu d'argent. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai toujours été boursier de l'État, donc en fait, je me suis toujours dit, je peux que remercier en fait la France de pouvoir me permettre d'avoir suivi des études, mais en même temps, vis-à-vis de mes parents, je me sentais très libre aussi de me dire que c'est fini.
Je vous dois rien entre guillemets.
Je vous dois rien. Je suis parti et là ça s'est très mal passé avec le paternel qui a pas du tout accepté en tant qu'ouvrier que son fils qui réussisse sa vie se barre pour faire comme il m'a dit son Van Gogh et donc du coup pendant un an il y a une rupture un peu familiale mais pendant ce temps-là j'ai pris mon sac à dos.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 24. Donc c'était ça aussi qui était compliqué, c'est de commencer aussi une carrière où on se dit aujourd'hui à 17, 18, les gens sont déjà dans le navire, quoi. En tout cas pour avoir une voix, on va dire, royale, normale. Ouais. Là, j'étais trop vieux pour les concours. J'ai juste passé le concours du conservatoire de Paris, j'ai eu le premier tour et c'est là où moi je me suis dit tiens, il y a quand même, enfin je sors de nulle part. Et...
Donc à ce moment-là, vous logez à Paris du coup?
Oui, chez une amie.
Eh viens chez moi, j'habite chez une copine.
Je fais du sac à dos. Alors du sac à dos, j'en ai bouffé hein, des kilomètres de sac à dos. Puis
comédien randonneur à ce moment-là.
Comédien randonneur, et puis avec un peu perdu dans cette faune, un manque de légitimité. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Et puis j'ai envie de travailler avec telle personne. J'ai fait des stages. Puis j'étais boulimique. Je me suis mis à le clown, la danse, la marionnette, le masque. Le jeu masqué m'a beaucoup aidé.
Pour aussi trouver l'univers qui vous plaît plus qu'un autre, peut-être un autre qui vous plaît pas du tout aussi d'ailleurs.
Ouais, alors je pense qu'il n'y a rien qui ne me... Enfin, je pense que tout m'attire. Je pense que c'est plus pour combler un manque de légitimité et puis comme un temps perdu. Voilà. Si je devais résumer quel enfant j'étais, j'ai toujours l'impression aujourd'hui que j'ai toujours fait tout trop tard. Voilà. Voilà, pour résumer.
Un train de retard.
Mais
des fois, c'est ce qu'il faut le mieux pour être à l'heure.
Oui, pas faux.
Quand on part d'une ville, petite ville, ville moyenne ouvrière du Nord, et qu'on débarque à Paris à 24 ans, comment on réagit? Enfin, ça se passe comment à ce moment-là?
Bah, en fait, ça va parce que j'avais déjà, en fait, pendant mon école d'ingénieur qui était à Compiègne, donc pas très loin de Paris, j'avais déjà l'occasion de faire des allers-retours chez mon ami qui avait un appartement et tout ça. Mmh. Et donc, du coup, je mettais comme ça le pied à l'étrier avec, au fur et à mesure, la découverte de ce que c'était que cette ville, qui a déjà beaucoup changé. Hein, déjà, c'est, je suis devenu un vieux con, mais je peux déjà le dire que je reconnais plus à plein d'endroits.
Vous y retournez souvent quand même à Paris?
J'y suis très, très, très régulièrement. Ouais. Et du coup, pour le boulot. Hein, et du coup, voilà. J'ai pas eu un choc phénoménal, un peu de moquerie à cause de mon accent du Nord, mais que j'ai pu corriger déjà au sein de l'école où j'étais.
On vous a demandé de l'enlever cet accent.
Ah là là, mais j'ai pas eu le choix. On stigmatisait, on pointait du doigt. Ah, il dit jaune.
Et la langue aussi, c'est du chetemi. Ils font des O à la place des A, des Q à la place des che. Et les che, ils les font, mais à la place des ce. Je dis voilà. C'est le Nord.
Ah, il dit rose.
Si à l'heure actuelle. Vous le feriez encore ou vous garderiez volontairement cet accent?
Alors là, par exemple, je lui disais tout à l'heure, je viens de faire la dictée, la dictée qui est des
Master Senior. À l'heure où on se parle, là,
exactement. Je sors,
dictée,
après je vais voir.
J'avais fait le Bernard Pivot.
J'ai fait le Bernard Pivot et voilà, super avec des jeunes, des personnes plus âgées. Bon, ben voilà, j'ai dû faire très très attention à des choses qui, moi, quand j'étais gamin, n'existaient pas. Les prononciations, moi, je viens du Nord. Enfin,
il revient des fois votre accent comme ça?
Ah oui, si je passe une semaine chez là-bas, moi, je retourne là-bas. Oui. Ouais. Oui, je vais me remettre à écraser les trucs, les petites. Voilà, il y a des petites pointes. Après, je parle pas. J'ai baigné dans un milieu où on parlait vraiment le vrai patois. C'est-à-dire. Des fois, va me carrer une caillelle, quoi. Voilà, donc ça, va me chercher une chaise.
Ouais.
Mais non, je suis pas à ce point-là.
Et c'est intéressant ce discours, enfin cette conversation sur les accents, parce que moi, je suis monté à Paris aussi, en fait, pendant mes études, et on m'a demandé de corriger mon accent, et j'ai été convoqué plusieurs fois chez le directeur parce que je refusais. Je ne voulais pas.
Il y avait une volonté d'affirmer.
Oui. En fait, parce que moi, je partais du principe que ce que j'étais. C'était ça aussi. Et si on m'enlevait le peu de personnalité que j'avais perdu en montant à Paris, en fait, à quoi ça servait que je sois moi, en fait? Et je n'ai jamais voulu volontairement faire d'exercice pour. On avait des exercices de prononciation. Et moi, je ne voulais pas parce que mon accent, c'était mon accent.
Ouais. Mais je comprends. Mais sauf qu'à un moment donné, par exemple, dans la pratique du théâtre, où. Ça même a commencé, c'était. C'était plus violent parce que c'était presque des fois un sentiment de honte qu'on cherchait à me donner, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
on dit pas ça, ah oui d'accord, la prononciation des imparfaits, des choses comme
ça, tout à fait,
c'était
du
latin pour moi, quoi. Donc il y a une espèce de rééducation tardive, mais il y a des moments en fait j'ai envie de dire aussi j'oublie pas d'où je viens et que ça m'amuse en fait de réutiliser cet accent des fois pour déconner.
Et des fois pour un rôle, pourquoi pas?
Oui. Dernièrement, j'ai fait une lecture où on m'avait demandé ça, oui.
On va retourner à l'année 2000. 2000-2009, pendant 9 ans, vous allez être comédien permanent pour la Maison de la Culture à Nevers. Anciennement, la Maison de la Culture, maintenant ça s'appelle La Maison. C'est Olivier Perronneau, le directeur de l'époque, qui vient vous chercher. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? Ça veut dire quoi, en fait, être comédien permanent?
Pour la petite histoire, Olivier Perronneau était directeur du théâtre de l'Espace Jean Lejeune de Compiègne, où moi je faisais mes études. Donc on s'est rencontrés dans ce cadre-là, où lui, il est venu donner des cours au sein de l'université. Et après, il a été nommé ici. C'est lui qui m'a un peu poussé, exhorté à me dire « Mais tu devrais faire du théâtre, en fait. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes études d'ingénieur ?» Alors oui. Et du coup, quand il est venu, donc il a quitté Compiègne, il est venu ici. Il m'a dit « Écoute, voilà, je viens d'être nommé dans un endroit, une ville avec un endroit qui est quand même... Il y a tout à faire, parce qu'à l'époque, c'était une grande maison de la culture, mais c'est vrai que c'était un petit peu en train de péricléter. » Et du coup, il m'a proposé de venir seul, et de sillonner le territoire pour essayer d'aller à la rencontre du public, pour essayer de dire aux gens, n'ayez pas peur maintenant dans l'autre sens, de venir vous dans cette maison, qui n'est pas, qui n'est pas un temple, comme on pourrait penser, inaccessible, parce que c'est quand même la cause principale des gens. On pense que les portes, pousser les portes d'un lieu culturel, c'est quelque chose de...
Voilà. Ouais, qui appartient à une certaine élite, alors que... Ouais,
et j'en suis la preuve, hein, vraiment. Enfin, je veux dire,
bah oui, du coup, maintenant, oui.
Maintenant, oui, j'ai une culture, mais au début, franchement, je... Voilà. Mais j'étais aussi dans cette posture-là, hein, d'avoir peur. Je peux encore des fois même le ressentir, de ne pas être légitime, de rentrer dans un magasin, je ne sais pas, maintenant de moins en moins, mais un caviste, parce que peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment le vin pour pouvoir savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire.
La peur de dire « bonjour, je ne sais pas ».
Oui, mais c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, dire « je ne sais pas », moi, de plus en plus, j'arrive à le faire, mais si vous me posiez une question, je ne sais pas, très concrète sur la vie politique ou je ne sais pas quoi, je dis « je ne sais pas ». Ouais. Je pense que c'est...
Ça impose tout de suite un blanc, du coup, qui peut être malaisant
suspect,
pour la personne qui ne sait pas.
Ouais.
Dans cette période-là, 9 ans, vous allez jouer sous la direction de plusieurs personnes aussi, ou pas spécialement, comment ça se passe?
Et donc, du coup, moi, je suis arrivé le premier. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre. On est arrivé, on était 3, puis 4 au final. Et puis après, il y a eu une idée intéressante du directeur de l'époque, qui était de faire venir des metteurs en scène, des metteurs en scène invités. Ouais. Nous avions l'occasion... Alors, c'est pas évident pour eux, parce que c'est un exercice où il faut trouver de la liberté dans la contrainte, qui est, ben, il y a déjà 4 comédiens, comédiennes imposées. Donc, du coup, trouver le texte en adéquation avec le milieu, l'univers artistique de chaque metteur en scène. Mais ça a été très enrichissant, parce que ben il y a des moments où je dirais que les mariages se sont plutôt bien faits à chaque fois, mais c'est pas toujours évident. Moi maintenant je sais que si en tant que metteur en scène on m'impose une distribution, il faudra vraiment réfléchir à la bonne, au bon texte pour pouvoir être bien en adéquation, quoi.
C'est presque 10 ans, vous avez vu aussi évoluer la maison de la culture à ce moment-là.
Oui, ben,
dans
par
la programmation dans tout, en fait.
Ouais, dans tout, par principalement la fidélité du public qui était croissant. Et puis c'est vrai que la permanence artistique a aussi, il y avait des rendez-vous tous les mois, viens voir les comédiens, on fidélisait, on créait des choses, on allait à la rencontre, des lectures, festival à domicile aussi dans le Bazois, qui était initié par Véronique Laurence, l'ancienne adjointe à la culture de Nevers.
Où là vraiment vous partez vraiment dans des endroits un petit peu très ruraux, vraiment reculés du monde presque.
Bazois, Morvan, chez les gens, pas facile d'ouvrir sa porte. Hein. Alors, au début, les gens n'étaient pas très nombreux à aller chez l'autre. Et puis, au fur et à mesure, pendant 8 ans, c'est devenu un rendez-vous où on devait pousser les murs. Quoi.
Ouais.
Et attention, avec du Tchekhov, avec du Jean-Luc Lagars, cette espèce de démagogie ambiante, je vais citer personne, mais qui nous dit qu'en fait, la culture, c'est quelque chose... Enfin, voilà, il faut se mettre au niveau du public.
Ouais, bien sûr. Ouais, vous imposiez aussi quelque chose de plus, et intéressez-vous à quelque chose que vous ne voyez pas forcément ailleurs, ou pas énormément du moins. Ouais.
Exactement. Élever l'âme, élever les spectateurs, voilà. Mais ça, je pense que c'est mon ADN.
Vous avez joué sous la direction de Jean-Luc Revol aussi dans ces années-là, qui est devenu maintenant le directeur de la maison. Votre regard là-dessus, justement, sur le devenir maintenant de Jean-Luc Revol?
Eh bien, je trouve ça assez amusant que l'enfant du cru, parce qu'on dit souvent monté à Paris, ou qui après a une jolie carrière, Jean-Luc, à Paris.
Il a fait cette émission d'ailleurs.
C'est un
de mes invités.
Je ne suis pas surpris. Jean-Luc connaît tout le monde. Jean-Luc, il a une carrière vraiment. Ce que j'admire beaucoup chez Jean-Luc, c'est justement. Par rapport à cette notion d'être capable dans n'importe quelle proposition dramaturgique, un texte, évidemment de plus en plus là c'est super parce qu'il est vraiment dans ses choix personnels, mais il y a des fois quand il était à Paris on lui a passé ce qu'on appelle passer des commandes, il est toujours capable avec une commande et parfois même une partie de la distribution imposée d'y mettre, d'y injecter son univers. Son univers
propre
aussi,
à lui en plus,
propre à lui, décalé, voilà. Et ça franchement je trouve ça vraiment remarquable, voilà.
Diriger un lieu comme il le fait, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous plaire?
Oh là là. J'ai failli, moi, je voulais avec le théâtre municipal.
Ici, là, à Nevers ?
Oui, il y a eu un appel d'offres, et puis après, on ne va pas revenir sur cet épisode, je vous laisserai vous renseigner là-dessus, parce que je ne veux pas polémiquer. Normalement, voilà, j'aurais dû, mais c'était un lieu à hauteur d'homme. Moi, je pense que c'est ça qui aurait été intéressant. Moi, là, voilà, la maison, je trouve que c'est quelque chose qui est... Il y a beaucoup de gens à gérer, il y a
C'est une entreprise, hein.
Il faut être honnête, et vous savez...
satisfaire toute cette... Le public de Nevers est super, il est exigeant aussi. En fait, il est très contrasté, c'est super, parce qu'à Paris, voilà, il y a force de proposition. Et puis, ben, si on est plutôt attiré par telle ou telle chose, ouais, on sait qu'on va aller dans tel ou tel endroit. Là, étant donné qu'à 60 km à la ronde, c'est le lieu culturel phare, satisfaire tout un bassin de population aussi complexe, dans les goûts, chapeau bas. Moi, je dis, trouver une cohérence là-dedans, un projet artistique, je ne sais pas si je saurais faire, je ne sais pas.
Pourtant, un projet artistique, vous en avez fondé un en 2009, après la collaboration de la maison. Vous avez fondé le théâtre du temps pluriel, 9 ans en tant que comédien permanent.
Ouais.
La suite, c'est ça, cette création du théâtre le temps pluriel.
Exactement.
C'était la suite logique, finalement, des choses, de fonder vraiment votre compagnie.
Oui, d'être vraiment dans... Après avoir été au service en tant que comédien, là, être porteur des projets, des
c'est
textes.
C'est une cofondation, d'ailleurs.
Oui, Alors, c'était compliqué parce qu'on était 4 permanents. Alors, d'un seul coup, on cofonde, mais en fait, au bout d'un moment... Même quand on était permanent, c'est moi qui amenais dans Viens voir les comédiens, les propositions, c'est moi qui mettais en scène, c'est moi. Donc, au bout d'un moment, c'était assez logique que je devienne le directeur artistique de cette compagnie.
Avec ce désir d'avoir vraiment les manettes complètes sur tout, en fait.
Ouais, même si ça prend du temps, parce que on sait bien que dans les compagnonnages, c'est comme ça, on le sait, dans les groupes, dans les avis divergent, les envies divergent et les chemins se séparent et je pense que c'est très très bien comme ça, mais en tout cas moi je voulais de plus, et c'est ce qui arrive de plus en plus, un entrain d'équation de ce qui me fait vibrer et c'est moi, c'est le texte, d'être au service, de faire entendre quelque chose, une pensée, une parole à travers des auteurs qui font vibrer. Donc, pour revenir à la difficulté, diriger un lieu, ce n'est pas programmer uniquement ce qu'on aime. C'est être capable d'aller comprendre que ça, même si ce n'est pas exactement l'endroit de connexion, il y a quand même tout un intérêt de le programmer pour une partie de la population, vous voyez. Et c'est ça la difficulté. Moi, plus je vieillis, plus j'élague. Je suis en adéquation avec mes envies, mes écoutes. Je m'enquiquine plus, je suis très sensible aux énergies. Il y a des gens où je rencontre plus, j'ai plus envie, je dégage, je jarte.
Vous filtrez plus
qu'avant.
Je
filtre, mais beaucoup plus.
Ouais.
Oui. Vraiment, je le dis avec toute honnêteté parce que je trouve.
Toujours dans cette optique de se préserver, encore une fois, on en parlait tout à l'heure.
Oui, parce que en fait, je suis quelqu'un de plutôt gentil et ça m'a valu de grosses difficultés dans le boulot, de m'être fait vraiment bouffer. Et en fait, je me rends compte que c'est l'être humain a besoin à un moment donné de cadre et que des fois, les coups de vis qu'on rajoute, les coups comme ça, sont très bénéfiques en fait dans les deux sens d'ailleurs.
Je sens énervé là quand vous en parlez, vous avez des souvenirs qui remontent là.
Oui, il y a deux ans j'ai failli arrêter ce métier, vraiment.
Ah ouais?
Ah oui, un Avignon. Voilà, avec un artiste.
Festival d'Avignon.
Ouais, où tout a été fait en bonne et due forme. Un artiste qui m'a claqué dans les pattes, une diva, qui, je ne citerai pas son nom, mais en plus il est plutôt connu, et qui a tout foutu en l'air, voilà, et un 31 juillet est parti sans dire au revoir, ni merci.
Ni merde.
Ni merde, et c'est là où je me suis dit, voilà, avec derrière une perte financière, une remise en question de mes envies, de ce que je ne veux plus dans ma vie, vraiment ça émane de là. Et maintenant, je suis hyper aligné avec ça. Et ça fait du bien.
Vous sens plus serein, oui, effectivement. Ah ouais, ça y est, vraiment. C'est bon, l'énervement est passé. Pourquoi ce nom, le théâtre du temps pluriel?
Ah, parce que je suis un grand... Alors évidemment, je suis un grand fan de Proust et que ce que Proust fait de façon remarquable, c'est la gestion justement de ce temps qu'il il passe 7 volumes à raconter des choses qui me bouleversent à chaque fois. Et puis pluriel parce que pour moi, notre l'endroit névralgique de notre métier, c'est le temps présent. Et que c'est très difficile d'y être. Au quotidien, c'est très difficile d'y être dans beaucoup de professions. Et c'est, contrairement à ce qu'on pense, très difficile aussi d'être au présent sur un plateau. Souvent, il y a ce que j'appelle la peur, qui est une espèce de petit diable qui n'existe pas. Finalement, on n'en verra jamais son visage, qui est derrière vous, puis qui est en train de vous pointer l'épaule, là, puis qui dit « Hé, tu t'es trompé. » Donc, on est dans le passé. Merde, je me suis trompé. Donc, on est en train de jouer, puis on se dit « Merde, j'ai raté une réplique. Merde. » Donc, on est dans le passé. Ou alors, de l'autre côté, il va vous dire « Hé, tu vas te tromper, parce qu'on est fatigué, parce que... Donc, on n'est pas au présent, on est en train de penser à ce qu'on va dire. » Et c'est souvent là, où quand on est dans le passé ou dans le futur, que l'accident arrive.
et on m'ôtera pas de la tête qu'en même temps les gens vont voir des gens chuter. Ils ont envie de voir les gens chuter, comme au cirque.
Ouais.
Et donc cet art du présent,
le temps. Voyeuriste un petit peu.
Ah,
mesquin,
oui, ouais. Ouais, quoi qu'on en dise, je pense, je suis intimement convaincu en fait qu'il y a de ça, en tout ouais. cas. Et donc ben le temps pluriel, parce que pour moi cet art de sur un plateau, c'est la quête du présent, mais c'est pas si facile que ça. Voilà.
Quand vous parlez de vos créations, et notamment à travers, bien sûr, le temps pluriel, vous dites que plus on fuit le réalisme, plus on touche la réalité.
Ouais, ouais, ça m'a valu des... C'est des auteurs que j'aime bien, c'est-à-dire que j'aime bien les formes.
Ça vous a donné quoi ? Vous rigolez, il y a un petit rire qui veut
ouais,
dire beaucoup de choses.
Allez, je vais le dire. Un jour... Voilà, je travaille sur, c'est marrant parce que c'est un épisode dont j'ai reparlé il n'y a pas longtemps et en fait je crois que ça m'a touché beaucoup plus que je ne le pense. Je travaille Jean-Luc Lagarce, je travaille un texte, donc Jean-Luc Lagarce il la lit, c'est compliqué, il parle de choses très intimes et en même temps il a une langue très particulière qui n'est pas du tout réaliste, elle peut paraître artificielle, ouais. C'est quelqu'un qui va amener beaucoup de corrections de tir dans la pensée, ce que je pense, ce que je pensais, ce que j'aurais voulu te dire, ce que je souhaitais te dire, c'est que, et plus on cherche à être précis, plus les rendez-vous sont ratés. Et ça, cette forme qui nous éloigne un petit peu, j'ai mis en parallèle, j'ai voulu travailler sur un de ces textes, j'ai fait regarder à mon équipe de comédiens un film de Romer, Conte d'automne.
Okay.
Et là ça m'a valu mais une salve de mais c'est pas du cinéma, voilà, ce que j'aime beaucoup chez Romer c'est la littérature, c'est très littéraire, on sent que c'est pas la quête du réalisme, c'est les gens ne parlent pas comme ça dans la vie. Et en fait j'étais assez surpris du manque de curiosité de mon équipe en disant, vous voyez chez Romer, même si ça, à votre oreille ça sonne faux, ce dont il parle est juste. Et c'est pour ça que je parle souvent de la différence entre la réalité, on peut parler de la réalité, être très juste, en fuyant le réalisme et en mettant une forme qui peut paraître artificielle.
C'est une ligne rouge que vous voulez garder sur toutes vos créations, sur toutes vos mises en scène?
Non, ça c'était vraiment particulier à des auteurs que j'aime, mais non, après si on a du travail du Tchekhov, alors on peut monter Tchekhov de façon symboliste, mais je suis pas sûr que moi ce serait une... J'ai vu une mise en scène de la cascade dans la cour d'honneur où il y avait ce décalage un peu symboliste. C'était très réussi, mais je pense que c'est pas mon... Non, il y a des auteurs où je pense qu'il faut pas faire le malin avec, quoi. C'est mon parti pris. Après, il y en a qui font très bien le malin. Hein. On est dans une société d'esbrouf aussi, il y a des gens qui aiment ça. Hein.
Depuis maintenant 15 ans, le théâtre du temps pluriel, c'est 14 créations mises en scène, presque une par an finalement. On va revenir bien sûr sur cette aventure. Mais juste avant, on va faire un stop en 2010. Vous remportez le prix d'interprétation au Festival d'Anjou. C'est Le Préjugé vaincu de Marivaux, mise en scène Jean-Luc Revol.
C'est
une reconnaissance. C'est ça qui conforte aussi votre choix. C'est un petit peu une manière de dire à votre père, maintenant, qui vous a dit « tu vas faire le Van Gogh », bah tiens, voilà, je vais pas faire le geste,
papa,
mais il
si
y a un peu ça, quoi. Tu vois.
Ouais, peut-être, je sais pas. J'avoue qu'en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé là-dessus, parce que c'était vraiment un travail d'équipe. La mise en scène était très acidulée de Jean-Luc, super, c'était un vrai succès. D'ailleurs on a remporté les 3 prix existants de tout prix,
oui, là,
du jury,
prix personnel, mais il y avait des prix collectifs aussi,
oui,
pour la création,
avec de l'argent à la clé et tout ça, mais du coup je sais pas, non, oui, j'étais très surpris. J'étais au Festival d'Avignon, je jouais à cette époque, et puis c'est Jean-Luc qui m'appelle, il me dit oh, il m'envoie un texto, je crois, t'as reçu le prix d'interprétation. Je fais ah bon, enfin il était sûr, donc bon voilà, c'était sûr. Et j'ai pas pu aller le chercher malheureusement parce que j'étais à Avignon. Okay. Et c'était Virginie Efira qui l'avait donné. Et
qui elle maintenant a eu un César.
Ah, déjà à l'époque elle était. Et donc les amis qui sont allés le chercher à ma place m'ont dit que voilà, ils avaient été très touchés du comique et du charme qui se dégageait de mon personnage. J'aurais bien voulu qu'elle me le dise en face. Mais bon.
Ouais, c'est vrai que beaucoup d'hommes aimeraient que Virginie Efira dise ça en face.
Mais bon, maintenant c'était voilà, en 2010. Après, ben moi.
Ce prix, vous l'avez gardé ?
Oui.
C'est bon, vous l'avez ?
Ah oui,
maintenant,
je l'ai. Ouais, ça y est, il est acté, mais c'est vrai que je veux pas. Bon, qu'est-ce que c'est que la récompense ? Après, oui, c'est peut-être.
Ça permet quand même aussi de vous dire, ben, mes collaborations, je les choisis bien. Là, c'est avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc Revol, mais ça peut être aussi dans plein d'autres.
Bah, là, surtout, c'est marrant, parce que c'est plutôt Jean-Luc qui devrait être content, parce que c'est Jean-Luc. Moi, j'étais imposé dans cette distribution, en fait, comme je disais. Donc, il a composé avec nous, donc c'est plutôt Jean-Luc qui a réussi, en tout cas, à nous polir et à nous faire rentrer dans son univers, quoi. Voilà.
Dans votre carrière qui n'est pas terminée, bien
non,
sûr.
Non, elle fait que commencer.
Bah oui, je vous le souhaite d'ailleurs, parce que surtout sur ce sujet-là, il y a une période cinéma aussi. Il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages. Je pense à Laetitia Lambert, La vie à l'envers et Voyage de l'insomniaque aussi. Il y a d'autres aussi petites apparitions dans des téléfilms, je crois.
Oui,
mais j'ai pas tout trouvé. Vous mettez
non,
pas
mais,
beaucoup
mais,
de
mais je peux pas mettre parce que je vais expliquer. En fait, je vais revenir justement à ce que vous disiez sur le théâtre aujourd'hui. Voilà, je vais être un peu solennel, mais la période est compliquée. C'est-à-dire que là, on vient de nous dire qu'à nouveau, il y aura 25% de diffusion en moins des spectacles par rapport à l'année dernière où il y avait déjà un certain pourcentage en moins. Diffusé aujourd'hui, c'est un peu comme une part de gâteau. Le nombre de parts diminue. Et les compagnies qui ont les épaules suffisantes, qui sont soutenues par des lieux. Ouais. Donc moi, ma compagnie, là, n'est plus associée à la scène conventionnée de la maison.
D'accord.
Donc voilà, je suis indépendant. Suite à cet Avignon dont je vous parle, passé 2-3 ans, en plus avec la période du Covid et tout, pour essuyer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris que c'était un petit peu douloureux. Là, j'ai monté un spectacle que j'aime vraiment, qui est pour moi... tout ce que j'aurais envie de dire, un auteur que j'aime, avec un trio de jazz, c'était une l'initiation de Roger Fontanelle pour Festival Jazz. La Litanie des Cimes qui m'a accompagné. C'était un spectacle vraiment, on a joué en mars dernier 4 fois, les gens nous ont dit c'est formidable, ça ne tourne pas. Voilà, il n'y a pas de diffusion, il n'y a rien. Passer 3 ans de sa vie pour gagner pas beaucoup et en plus derrière ne pas tourner. Je me suis beaucoup remis en question. Je revisite le théâtre sous forme plus littéraire avec un ami qui travaille dans le vin. On crée des cycles de lecture, on nous passe des commandes. Ça s'appelle des livres et des vrilles.
Ouais.
Voilà, je prends autant de plaisir à créer un menu. C'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, en train de lire. C'est une petite création et je suis toujours mu et je me perds moins là-dedans. Et pendant ces 2 ans là dont je vous ai parlé, je me suis remis en question. Je me suis dit qu'est-ce qu'être un acteur. Je me suis recentré sur être acteur, pas que porteur de projet.
D'accord.
Donc du coup, ben voilà, je me suis mis à faire des rencontres de casting. Voilà, je viens de tourner 2 jours pour TF1 en juillet. Alors d'aucuns me diront ah TF1 cet été on m'a encore dit je fais de la pub. J'en ai tourné une avant-hier. J'en suis là, j'en ai tourné une en juillet. On me dit, une personne m'a dit, j'étais dans un festival de la Drôme la semaine, il y a 15 jours, elle me dit, ah oui, on t'a vu à la télé. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon, ça met du beurre dans les épinards. La personne n'a pas compris que je lui dise, mais je prends plaisir à faire ça, en fait. C'est une des cordes du métier d'acteur. Et puis surtout, il faut être pris. Enfin, c'est pas si facile que ça. Ouais. TF1, 2 jours, on vous demande 26 minutes de alors que c'est donc 13 minutes effectives par jour.
On peut savoir pourquoi vous avez tourné, vous avez le droit de le dire ?
Non. Non, pareil, là, je fais du doublage aussi.
Quand je couperai les micros.
je le dirai après. pareil pour le doublage, là. Donc, je me suis mis au doublage depuis 1 an et demi. Là, ça commence à. Voilà. Donc là, j'ai une grosse journée le 14 octobre. Je ne sais pas pourquoi je vais
doubler. C'est important de se renouveler aussi. Parce que là, c'est un petit peu ça aussi que vous expliquez.
Alors, c'est pas se renouveler, en fait. C'est revenir au cœur. Parce que tout ça, en fait, c'est lié. Enfin, c'est l'art du présent. Vous voyez, le doublage, c'est vraiment. On est obligé d'être dans le regard. Puis c'est de l'humilité. Parce qu'on ne peut pas jouer autre chose que ce qui est joué et imposé. Donc si les acteurs sont bons, c'est plus facile. Si les acteurs sont mauvais, doubler quelque chose de mauvais, ça demande vraiment... mais vous ne pouvez pas jouer autre chose que... Vous êtes dans l'ombre déjà. C'est pas votre image, c'est votre voix, votre timbre, et c'est votre jeu. Et donc vous êtes obligé d'être au service de quelque chose qui existe déjà. Et c'est vraiment du présent, parce que ça va vite, c'est une question aussi économique, on n'a plus le temps de regarder 3-4 fois le truc, au bout vous avez une prise et la deuxième vous devez être au rendez-vous. Je fais beaucoup, maintenant aussi des livres audio, j'adore ça, enfin, c'est au présent, on est vraiment en train de se dire tiens qu'est-ce qui se passe. Pareil, je veux dire, la pub, pour moi c'est des vacances, je veux dire, pareil, l'image, pour moi c'est un tout autre travail, mais qui est juste, et c'est ça, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est d'apprendre. On ne peut pas mentir, on est là ou on n'est pas là. Si on n'est pas là, c'est le présent dont je vous parlais. Ouais. Et ça amène vachement pour le théâtre tout ce que je fais, ça amène vraiment. Ça a pris encore plus d'ampleur quand je suis sur un plateau de théâtre, voilà, cette notion du présent.
Il y a une manière de jouer qui est quand même différente quand on est devant une caméra que quand on est devant un public au théâtre.
Bah oui, parce que déjà, en fait, les gens ont très peu d'imagination, ceux qui gèrent l'économie, parce que c'est une économie, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier, celle du cinéma et de l'image. Donc,
ça, c'est le côté un petit peu plus rudimentaire du métier, enfin pas rudimentaire, mais c'est le côté un petit peu moins beau, moins magique du moins.
Je viens de tourner une pub, voilà, moi ça m'a fait rire parce que voilà, je jouais un mec très gentil, très qui dirige une entreprise et
d'accord.
Oui, sauf que moi je jouais tout sauf ça et c'est mon image soi-disant et je dis mais pourquoi vous m'avez pris, on a vu ta photo, on s'est dit ah ouais ok, mais les gens pensent qu'on, le public a peu d'imagination, donc on va pas vous mettre dans des choses de ce que vous dégagez. Alors moi je ne cherche pas à savoir ce que je dégage, je m'en fiche totalement.
D'accord.
Ça m'appartient pas. Si je commençais à vouloir retenir les rênes de ça, je pense qu'en fait je ne serais pas bon. On ne me prendrait pas pour... Mais maintenant, ce serait intéressant qu'on me prenne pour du contre-emploi. Voilà, mais c'est déjà arrivé. Hein.
Je vois un méchant, par exemple.
Ah bah oui, il n'y a que ça qui est jouissif. Et par exemple, en doublage, paradoxalement, on m'envoie sur des trucs de psychopathe, de machin. Je me dis, ouais, c'est cool, mais pourquoi tu m'as choisi?
Alors c'est quoi une voix de psychopathe, là, par exemple?
Ah non, c'est pas... je peux pas faire la voix. C'est-à-dire, j'ai besoin de voir ce qu'a... le regard de, du ouais. comédien, ce qui se joue, en fait. Voilà, c'est... Là, je pense à une scène d'un mec dans une piscine assez enrobé. Faut avoir l'image, quoi.
Ouais, ouais, faut se projeter dans,
dans
la personne en question.
C'est très ludique, ouais. Mais c'est très. C'est... Ah non, moi je suis admiratif. Enfin, je me dis, cette découverte-là de ce milieu où je me suis dit, waouh, c'est vous branché de faire du doublage aujourd'hui. Avant, fallait pas le dire. T'es acteur de doublage, oh là là.
Ouais. Vous défendez. Les doubleurs, les vrais doubleurs, les vrais comédiens, ne pas prendre des... Ouais. Maintenant, il y a des youtubeurs, il y a des... Parce que c'est sympa pour le film, parce que pour la promo du film, c'est sympa.
Bien sûr,
mais ça ne remplacera jamais des comédiens.
Et encore dernièrement, quelqu'un que je connais, un artiste, un chanteur lyrique. Alors souvent, les chanteurs, les gens pensent que parce qu'ils ont une bof... on m'a dit, j'ai une belle voix, donc je vais faire du doublage. Enfin, surtout, d'ailleurs, ils détestent entendre ça, les directeurs et directrices artistiques. Et un chanteur, voilà, il veut se mettre au doublage. Et j'ai essayé de lui expliquer, non pas directement, parce que c'était Messenger, mais c'est soit acteur avant, en fait. Faut être acteur.
Ouais, bien sûr. Ben oui.
Ouais. Ça s'improvise pas. Non, moi je suis très admiratif des grandes voix.
Mal jouer en voix off, c'est pire. En doublage, c'est pire que de mal jouer à l'écran.
Ah ouais, ouais. Mais oui. Ah non, mais c'est vraiment. Et puis je le répète, vraiment, quand c'est mal doublé, se dire, va falloir que je tricote avec ça, quoi. C'est un truc d'humilité. Vraiment, hein. Moi je suis admiratif. Et puis le fait maintenant de m'y mettre un peu, un peu à ma petite échelle, hein, mais bon, je me dis, waouh. Et d'ailleurs. J'ai arrêté mon snobisme de d'écouter que les œuvres en version originale et maintenant je regarde un petit peu ce qui se fait en VF.
En VF, ouais. Chiant ça, ceux qui écoutent les trucs en VO. Quand on parle anglais comme moi. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai vu quelque chose.
Oui.
Vous parlez japonais.
J'ai fait du japonais en école d'ingénieur.
Ouais.
Alors, je pourrais plus parler. Je suis parti au Japon avec un spectacle, d'ailleurs. En fait, le problème de l'UTC où j'étais, c'est que j'ai fait 3 UV d'un coup, comme ça, en 1 an et demi.
D'accord.
C'était il y a 4...
Des UV
18... Oui, les unités de valeur, on appelle
d'accord.
ça. Voilà. En 98, voilà, on est en 2024, enfin Théo.
Donc là, même bonjour en japonais ou quoi
si, non, c'est... C'est quand même... Là, on commencera à faire konbawa, je pense. Ouais. Bonsoir, plutôt. Ouais,
moi. D'accord, konbawa.
Watashiwa, Olivier Dess. Ouais, j'aimerais bien reprendre aussi les langues, mais
bon, ouais.
pas de temps.
Plus on
de
va
temps.
Continuer l'interview en français,
okay.
si ça vous dérange pas. Hein. Le cinéma, pour continuer un petit peu sur cette période-là, vous n'avez jamais eu encore de rôle de premier plan, on va dire.
Non.
Si ça n'arrive jamais, ce sera un vrai échec. Vous aimeriez avoir un rôle de premier plan qui, distribué dans les cinémas, etc.
Je vais pas. Si on me le proposait, bien sûr. Mais il se passe un truc, c'est que à chaque fois que j'ai fait beaucoup de rencontres avec des directeurs, directrices de casting, ça se passe très bien. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est souvent d'ailleurs ceux qui gèrent les rencontres. Mmh, donc c'est même pas les directeurs de casting qui me disent il est
été repéré. Les retours qu'ils ont.
Et ils t'ont aimé, machin. Et moi, jamais rappelé. Et puis là, je cherche désespérément un agent et ça fait 2 fois qu'on me dit que je suis trop vieux.
Voilà. C'est important, un agent.
Ça vous répertorie, donc c'est les directeurs et directrices de casting savent si vous êtes dans une banque de données. Voilà, mais après, on peut se passer de ça. Après, moi, je me suis pas arrêté au fait que je sois trop vieux, puisqu'on me l'a dit 2 fois. Si ça se fait. Après, il y a une petite légende, on n'y croit pas. Un jour, j'ai vu une voyante qui m'a dit que j'avais que jusqu'à l'âge de 44 ans et j'en ai 49. Donc,
Vous êtes superstitieux comme ça? Vous allez voir des voyantes?
Alors, c'était un truc d'énergie voyante. Ah non, là, c'était plus un truc de régulation énergétique. Et
d'accord,
puis, il s'avère que derrière, elle m'a sorti 2-3 trucs. Je fais, ah ouais, d'accord. Et puis, on est allé un peu plus loin. Ah oui, je suis hyper, hyper sensible à ça. Je suis... on m'ôtera pas de la tête. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous êtes avec quelqu'un en face de vous, que vous ne connaissez ni Dan ni d'Adam, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez envie de discuter ou pas, ou on se sent pas bien. Oui, il y a des choses qui sont souterraines. Ouais. Des énergies, des... Les âmes sont là, ouais. Ah, c'est peut-être mystique, mais j'y crois. Ouais.
J'évoquais tout à l'heure les 14 créations au sein du théâtre pluriel. Il y en a pour le grand public, il y en a d'autres qui sont destinées plus aux enfants, aux jeunes publics. C'était une volonté aussi, ça, depuis le départ, en créant la compagnie, de dire on va proposer aussi des choses pour le jeune public.
Bah, y avait ça, parce qu'il ne faut pas se voiler la face non plus, c'est que le public est vieillissant un peu partout. Et que aujourd'hui, avec la technologie, c'est un peu faire de la résistance, ce théâtre. Donc en fait, inciter les plus jeunes à mettre les pieds dans un lieu pour du spectacle vivant, quand on sait qu'aujourd'hui, au bout de 15 secondes, on zappe, on peut changer de chaîne. Et c'était surtout une partie qui était plus prise en main par Marie-Julie, qui maintenant, justement, continue ce travail-là de jeune public avec sa propre compagnie qu'elle va créer là, prochainement. Okay. Voilà.
Vous ne jouez pas trop devant le
public? J'en ai fait une autre compagnie que j'ai commis en scène avec une amie, avec la compagnie d'Estia, la compagnie du Louange, un très très beau spectacle adapté.
Vous allez dans les écoles à ce moment-là?
Alors, on faisait des interventions à l'école, mais là, c'était un gros spectacle opératique. En fait, il y avait des musiques baroques jouées en live, avec de la vidéo, avec... moi, je chantais un peu, je jouais tous les personnages, je chantais un peu aussi, et puis avec une chanteuse lyrique. Et là, c'est un spectacle qui a été super. On a fini de jouer l'année dernière, mais malheureusement, la diffusion étant très complexe, parce qu'un peu lourd techniquement, ce spectacle a eu une vie plus courte que prévu. Voilà.
Le petit Olivier, dans le nord de la France, à l'époque, il aurait aimé avoir l'intervention justement d'un comédien comme ça, dans sa classe.
J'aurais adoré, mais moi, j'ai pas foutu les pieds au théâtre avant en terminale, quoi. Je me souviens de la première pièce que j'ai vue, c'était Éric Lacascade, le Balaton Théâtre, c'était un Marivaux, la double inconstance. Et après, c'était un texte qui s'appelait Agathe Alexis, qui avait mis en scène Le Venin du Théâtre. Je ne sais même plus de qui est ce texte, ça m'avait marqué à vie, c'était sur Socrate.
Et un signe à l'époque que ça vous marque autant, au final.
Ouais, c'est des empreintes, en fait. Pour ça aussi que je suis fan du cinéma, la notion de l'image. Ouais, les films qui me font vibrer, c'est j'ai les images. Et ça... la notion de ce je me dis j'aurais voulu qu'on vienne
m'apporter cette culture à l'école,
bien sûr. Ah ouais, vraiment.
Quelle création vous a le plus marqué au sein du théâtre pluriel?
Pour moi, je dirais la dernière, Monsieur Goulouja.
Que vous avez tourné en mars, avril.
Oui, enfin, on a fini. On avait créé il y a 2 ans pour le festival de jazz. Et puis parce que Roger Fontanel a un flair fou. Il m'a proposé une commande, je lui ai proposé le texte de Branimir Stepanovic. Il a dit waouh, super. Et puis il a tout de suite pensé à ce trio. Et puis moi, je continue à bosser avec Bruno Ducré énormément dans tous mes projets. Maintenant, c'était une vraie rencontre humaine et artistique. Et là, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire un plateau quasi un texte, un acteur, moi en l'occurrence. Je dis pas que je suis en train de m'aimer, mais en tout cas la notion d'interpréter, raconter, de narrateur, de conteur, avec des musiciens fantastiques et beaucoup d'impro en fait, en construction, donc du présent. Il y a plein de moments où ça change les soirs parce que la note est pas tout à fait la même chose, la couleur est pas tout à fait
la
même.
C'est un nouveau spectacle chaque soir.
Vraiment.
Votre actualité du moment, c'est quoi
actualité du moment.
Alors, on va bientôt vous retrouver sur TF1, faudrait être attentif.
Ouais, mais bon. Non, et puis après, je suis. Je viens de faire un petit peu d'images, pubs, Et je suis ce cycle dont j'ai parlé tout à l'heure, des livres et des vrilles. On a 2 commandes pour octobre au musée du Grès, à Saint-Amand-en-Puisé. Et puis à Châtillon-sur-Seine, on a un week-end de gastronomie. On a dans 3 lieux remarquables de la ville, une église, une source. Et le soir, on se retrouve pour un cabaret vinico-littéraire avec justement Bruno Ducré qui vient nous rejoindre aussi au violoncelle. Et ça, j'écris une forme de dramaturgie en essayant de raconter la ville où je suis. Là, le musée du Grès, je suis en train de finaliser le menu pour le 4.
D'accord. Il y a un côté un petit peu historique aussi, historien dans tout ça.
Il y a un truc, ce que j'adore, c'est que des fois je me dis j'ai ma pile de livres qui encore qui diminue pas parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai ces commandes, il y a une autre pile qui est en train de se construire parce que ça me permet d'aller visiter des auteurs que je ne serais pas. Là, je suis par exemple chez Achille Milien parce que dans le musée du Grès, il y a une de ses céramiques. Et en fait, je me dis j'avais envie de parler de cet homme remarquable qui avait sillonné la France et principalement la Nièvre pour récolter tous ses textes, ses contes et ses musiques, enfin tout ce qui est de l'ordre du folklore, parce que c'est des mots aussi. Moi, ce que j'aime, c'est dans le sens de la culture, dans le bon sens du terme, et c'est un mot aujourd'hui, dès que vous le dites un petit peu, j'aime l'endroit où je suis né, la région, l'aspect aussi d'aller fouiner dans cette culture-là, de d'où on vient, et de ne pas le perdre. Et ça, il y a des. Il y a toujours des auteurs où j'essaye toujours de mêler un grand écart entre le classicisme et le contemporain. Voilà. Et nous, on se situe entre ce grand écart, quoi.
Il y a les projets pédagogiques aussi à côté que vous continuez.
Oui.
On a parlé en tout début d'émission de votre intervention dans une prison, à quelques mètres d'où on est là.
Oui.
C'est des projets qui vous plaisent, qui vous stimulent. Ouais. Aussi le fait d'aller dans des lieux où la culture est quand même mise à l'écart, malheureusement. Ouais. D'autant plus dans une maison d'arrêt.
Ben, j'ai la chance d'avoir des gens qui pensent à ma place. Donc, quand Roger Fontanelle m'a proposé ça, je me suis dit, moi, j'y serais peut-être pas allé par crainte, par peur.
Ouais.
Et ça a été une expérience que j'ai vraiment, vraiment, vraiment. On a beaucoup. Ça nous a nourri, en fait. Ça nourrit. Voilà.
Ouais.
En fait,
moi, vous n'êtes pas ressorti indemne de cette expérience-là.
Non, parce que ça nous remet à notre place. Et puis, vous savez, bien sûr que ça serait super de jouer sur le grand écran, que ça serait super de jouer dans la cour d'honneur. Moi, j'ai réussi depuis une dizaine d'années à me dire, mais en fait, j'ai plus cette frustration comme rentrer dans une librairie où je me dis, j'arriverai jamais à lire tout ça. J'ai plus ça. Pareil, en tant que comédien, je me dis, mais c'est juste, je suis au présent, je suis là, c'est ma place. Ouais. Ma vie, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas plus tard. Et ce que je fais me remplit. Et souvent, ce qu'on oublie chez les actrices, les acteurs, les comédiennes et les comédiens, c'est pourquoi on fait ça. Mmh. Et moi, c'est la notion du partage. Et je me dis, à un moment donné, ce partage dans les deux sens. Et ben, je me dis que là, je vais travailler avec des gamins là, dans une résidence territoriale avec la DRAC, 60 heures. J'attends de savoir avec quelle école je vais travailler, mais autour d'un conte de Grimm. Ben moi, ça me fait vibrer de me dire perdre le contact avec la jeunesse, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, je remercie aussi un petit peu la France de m'avoir permis de faire ça. C'est une manière de lui rendre aussi.
Ben quelque part, l'année dernière, Château Chinon, je suis intervenu dans un collège avec une classe très difficile, mais quel bonheur de voir ce qu'ils ont fait au final.
Ouais.
Et même de voir comment ils se sont comportés au final, parce que la dernière après-midi, c'est un peu mal passé. Ils sont venus tous s'excuser, les garçons, à la fin, quoi.
Ouais.
Je me dis, waouh, c'était pas gagné, quoi. Et de l'écoute, en fait, de l'écoute, de la curiosité. Et puis aussi, moi, voilà, c'est le cœur, c'est mon point névralgique de la poésie, en fait. Parce que, voilà, ce monde en manque parfois cruellement.
J'aime poser cette question aux personnes que j'ai en face de moi lors de cette émission, mais ça va être compliqué. Pour vous, c'est la journée type. Mais finalement, vous n'avez pas spécialement de journée type, en fait. Chaque journée est une nouvelle découverte.
Ah non, franchement, il n'y a pas un jour... Là, je me suis levé à 5 heures, j'ai pris un train 7 heures. J'avais un rendez-vous avec une élève que j'ai au conservatoire parce qu'elle veut faire son grand oral sur un sujet de théâtre. Donc, je dis, j'ai une petite heure. J'ai eu un rendez-vous au conseil départemental à 10h30. J'étais pour la dictée à midi, à 14h la dictée. Je suis avec vous là et puis je repars tout à l'heure.
Ouais.
Demain, je vois un ami, je me pose. Et puis après, j'ai tournage. Enfin, voilà, il n'y a rien qui se ressemblent. C'est même d'ailleurs le fait d'avoir fait maintenant des choses comme du doublage, de l'image, la temporalité par rapport au théâtre est totalement différente. Avant, regardez la difficulté pour ce rendez-vous. J'attends des réponses, j'attends. Ça, c'était pas le cas avant. Avant, j'avais une vision à peu près de 6 à 1 an. Là, en fait, tous les 15 jours, je ne sais pas de quoi sera fait.
Ça vous fait peur, la routine ?
Oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Parce que souvent quand on est jeune, on dit moi je veux pas avoir de routine. Et puis plus on vieillit, plus on dit ouais, mais c'est quand même bien des fois le petit train-train.
Non, mais moi
je dis pas que vous êtes vieux, mais vous avez vieilli quand même.
Je vais avoir 50 berges bientôt. Ouais. Non, je pense que je suis. Bon, après, j'ai pas l'impression d'être. Bon, l'âge c'est dans la tête. Hein.
Ouais.
Non, ce qui est compliqué parfois c'est les trois. Parce que je suis entre Nevers, Paris, et je vais beaucoup me ressourcer dans une maison de campagne dans Lyon.
D'accord.
Donc c'est ces trois maisons avec les livres, le truc très matériel, les fringues, où est-ce que je suis, comment je dois anticiper. Mais au final, la vie amoureuse c'est super parce qu'on n'a pas le temps de s'engueuler, on est là, on a que envie de se revoir. Enfin, la vie amicale, c'est pareil. Demain, je suis content de revoir un ami que j'ai pas vu depuis 2 mois.
Non, il y a votre famille aussi à côté, vos frères, vos soeurs.
Oui, de plus en plus d'ailleurs. Voilà, parce que mon père est parti il y a déjà longtemps, mais ma mère maintenant est très malade. Donc l'Alzheimer de ma mère, malgré des embrouilles familiales, me rapproche de mes frères.
D'accord.
Et ça, franchement, cet été, j'ai vécu des moments très forts et je sais que maintenant, il y a une volonté vraiment de suivre ce que je fais plus qu'avant.
Écrire une pièce sur vous, sur votre vécu, sur le petit Olivier qui s'embrouille avec son père c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Il y a plein de gens qui me le disent parce que souvent quand je raconte, moi j'aimerais rendre hommage à mon père avec vraiment un sourire et beaucoup d'amour, même si ça n'a pas été que simple, parce qu'il a une vie, parce que je pense qu'historiquement, il y a plein de choses à raconter, d'un Polonais qui débarque, ouvrier, parent, père, c'est Zola, hein, c'est l'assommoir, un père alcoolique, il a fait la guerre d'Algérie, il est revenu traumatisé, et donc du coup, de comprendre aussi son père à travers ce prisme-là, et puis d'un...
Ça, c'est un c'est une case vide que vous avez dans votre vie, la période papa et...
Oui exactement. Peut-être que je devrais la remplir par ça.
Ouais,
mais c'est pas faux. Mais en tout cas, ce serait quelque chose plein d'amour qui raconterait aussi... je voudrais pas parler... Enfin, c'est difficile parce que parler de soi, tout le monde a envie de parler de soi, mais on s'en fout. C'est de parler des autres à travers soi. Ça, c'est différent. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. En utilisant aussi l'arme de la poésie et de l'humour, c'est pas toujours simple. Après, moi, voilà, j'aime les mots des autres. J'ai des velléités d'écriture, mais je n'ai pas encore franchi ce cap. Là, pour le coup, c'est aussi pudique que se mettre à poil.
Ce serait un seul en scène, en plus.
Oui, et puis en plus, c'est un exercice, j'avoue, pour des raisons non pas que économiques, contrairement à ce qu'on pense, mais j'en ai déjà fait deux gros, dont la panne de Duran Matt. C'est une amie qui m'a offert ça au moment où je voulais arrêter, il y a 10 ans. Et elle m'a dit, tiens. Et c'est un spectacle que j'aime profondément. Et puis, Monsieur Goulouja aussi, voilà, ouais. En fait... quelque chose du seul en scène que je trouve assez vertigineux, mais c'est un exercice que j'aime bien, en fait. J'aimerais bien jouer avec d'autres, en fait. L'année dernière, j'ai failli, parce que dans le cadre d'un atelier de casting, il y a Virginie Lemoine qui est venue une journée, et puis ça s'est vraiment très très bien passé. Elle m'a repéré, et le soir, elle m'envoie un message en me disant est-ce qu'on peut se voir après Avignon, parce que je voudrais bien vous proposer un rôle. Et puis, en fait, c'était pour un remplacement de rôle. Et finalement, l'acteur qui ne pouvait plus l'a quand même fait.
D'accord.
Et ça, c'est dommage parce que c'était pile poil le moment aussi de remettre le pied à l'étrier en tant que simple acteur, enfin comédien.
Donc ce seul en scène, qui pourrait être d'actualité, c'est quand même intéressant. Je reviens dessus rapidement, mais c'est vrai que ça parlerait d'immigration, ça parlerait de sexualité aussi.
De sexualité, évidemment.
Dans une période où c'est important, je pense, d'en parler, autant pour les jeunes que pour un public vieillissant qui a besoin peut-être de déclic, parce que des petits Olivier Broda qui s'engueulent avec leur papa parce qu'il y a un vécu compliqué, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup, en fait.
Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et contrairement, parce qu'il ne faut pas penser que même si c'est plus souple et parfois plus simple, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai encore des témoignages qui confirment ce que je dis là. Ce n'est pas que simple. Mais en tout cas, mais là, franchement, ce n'était pas prévu, cette question. Mais c'est vrai que ça réactive. Ça fait 3 fois qu'on m'en parle. Et je vais même me dire une chose, c'est que cette personne dont je vous parle, un peu voyante, me l'a dit.
D'accord.
Dernièrement, en disant
est-ce que l'écrire en livre, peut-être, ça peut être une première passe avant de le mettre en scène.
Peut-être, parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup en tant qu'acteur, c'est redonner du. Pour moi, la littérature, c'est des voix qui sont redevenues silence, donc il faut leur redonner du son, des mots horizontaux, leur donner une verticalité. Alors peut-être que la verticalité directe est peut-être un peu plus effrayante. Il faudrait peut-être que je commence par. Presque, ouais.
Avec comme titre Olivier Broda.
Pourquoi pas Ah non, mais Théo, c'est bon, c'est mon impresario. Allez, hop.
Allez, c'est parti. Bon, on va terminer avec un petit jeu. C'est très rapide parce que Surveiller aussi, c'est pas de l'impolitesse, c'est que je sais que vous avez un rendez-vous.
Ouais, j'ai la remise des prix de la dictée. Voilà, c'est merci Théo.
Bernard Pivot qui doit.
Ouais.
Vous vous rappelez de Théo Café le matin sur la 2 avec Catherine Barma. C'était Catherine Barma, c'est ça, je crois.
Non, pas c'est Catherine la productrice,
Barma. Oui, bref, vous avez l'image. Elle posait des questions dos à dos, il fallait répondre très rapidement, très successivement. On va pas se mettre dos à dos parce que c'est de la radio, mais dans le principe, c'est là. Je vous pose des questions très rapides, vous me répondez très rapidement. Bien. On est parti. Votre livre de chevet.
Le temps où nous chantions de Richard Powers.
Votre film préféré.
Tarkovsky, j'hésite entre Andrei Rublev ou Stalker.
Votre plus grosse qualité.
L'écoute.
Votre pire défaut.
Soupe au lait.
Votre plaisir inavouable.
Je suis gourmand. Non, le vin.
Ah, on peut être gourmand.
Ouais, carrément, même trop, mon médecin l'a dit.
Ah, on a un point commun.
C'est cool.
Votre couleur préférée.
Le bleu.
Votre rêve le plus fou.
Écrire un spectacle sur mon père.
Et enfin, Olivier Broda, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble.
Plaisir partagé.
On va terminer là-dessus, votre mot préféré.
Procrastination.
Voilà Bac FM, cette émission est à retrouver en podcast sur bacfm.fr. Tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous donne rendez-vous à 13h demain avec des nouvelles invitées et les infos de la mi-journée. Très belle soirée, à demain.